Bonjour, bonsoir, salut tout le monde. Je me présente, je m'appelle Maxence. Bienvenue sur l'Instant Wipsy. Et aujourd'hui, on va parler de la précarité étudiante avec des étudiants qui sont en précarité, bien évidemment. Alors, je vous laisse vous présenter.
Salut, moi je m'appelle Damien, j'ai 25 ans. Je viens à peine de terminer mes études et j'ai été étudiant pendant 6 ans.
Salut à tous, moi c'est Chloé, j'ai 24 ans. J'ai été 2 ans étudiante, donc là ça va faire bientôt 3 ans que j'ai arrêté mes études. Et comme tout le monde, j'ai galéré en étant étudiante.
Bonjour, Pablo, 21 ans, en service civique européen international et étudiant en année de césure à l'UPHF de Valenciennes.
Très bien. Eh ben, on va commencer par la première question, je vais vous la poser à tous les trois. Est-il possible de vivre correctement en tant qu'étudiant, en termes d'alimentation, de loisirs et de vie quotidienne, quoi ?
Moi, je pense que vivre correctement, ça dépend bien sûr de chaque personne et des moyens de chaque personne. Moi, par exemple, pour ma part, j'ai dû, et je pense que c'est le cas de beaucoup, faire des sacrifices, notamment par exemple, soit sur les loisirs, soit sur l'alimentation. Moi, c'était surtout sur l'alimentation, pour pouvoir avoir une vie étudiante, pouvoir sortir, etc.
Pour moi, ça dépend surtout du soutien qu'on a derrière. Être étudiant seul dans la situation actuelle, pour moi, c'est pas faisable, que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau de l'alimentation et des loisirs. Soit il faut vraiment avoir un job, mais dans ce cas-là, tu n'as plus de temps pour ta vie sociale. Soit il faut vraiment être aidé par les parents pour pouvoir payer tout ce qu'il faut payer.
Je rejoins l'intégralité des choses qui ont été dites précédemment. Être étudiant aujourd'hui, c'est une vraie difficulté. Soit on fait partie des chanceux et on peut avoir un train de vie normal, en fait, de vie d'adulte, qui est soutenu d'une part par ses parents principalement. Soit on n'est pas chanceux et du coup on est dans la situation où on doit mêler job et vie étudiante, voire même avoir toutes ces difficultés qui font que c'est difficile en fait.
Donc on serait un peu tous d'accord pour dire qu'une aide des parents serait quand même indispensable quand on est étudiant.
Je pense que c'est préférable quand même. Après, ça dépend aussi de... Il y en a qui arrivent à très bien s'en sortir et qui ne dépensent pas non plus énormément. Bravo à eux. Qui arrivent à s'en sortir avec les bourses ou les APL qui vont toucher, qui arrivent aussi à travailler. Moi, je sais que là, j'ai été en alternant pendant les 2 dernières années. Donc, je me suis débrouillé tout seul. Mes parents ne m'aidaient plus. Mais quand j'ai commencé les études et que j'étais en initiale, c'était très compliqué. APL plus bourse, j'étais à 200 et quelques euros. Donc, même pas de quoi payer mon loyer. Donc, j'étais obligé d'être aidé, quoi. Sinon, il aurait fallu que j'arrête.
Si on maintient le système actuel, malheureusement, oui, l'aide des parents est primordiale. Après, le mieux, ce serait tout simplement de créer un espèce de revenu universel pour l'ensemble des étudiants, pour justement sortir de cette bulle où, si nous faisons partie de classes plutôt moyennes, on n'a pas forcément accès, en fait, aux bourses. Et du coup, les parents d'arrière n'ont pas forcément suffisamment d'argent pour pouvoir investir sur leurs enfants, au même titre que d'autres classes qui, du coup, ne peuvent pas du tout soutenir et ont des bourses, mais ne sont pas suffisantes, en fait, pour vivre. Donc, il faudrait vraiment sortir de ce système. Et dans l'état actuel des choses, l'aide des parents est primordiale, même si, dans l'idéal, il ne faudrait pas.
Pensez-vous que votre situation financière aura une influence sur votre avenir plus tard ?
Pour moi, oui. Dans le sens où... la situation financière de mes parents, surtout, ont fait que je n'ai pas pu faire les études que je voulais faire à la base. Donc, pour moi, ça a une grande influence sur mon choix d'études, mais aussi sur le choix de l'école. Par exemple, j'ai voulu faire une école privée qui était à Dax pour faire de la programmation. Et la situation a fait que je n'ai clairement pas pu me la payer, parce que 4 000 euros à l'année, c'était absolument infaisable pour nous. Du coup, je suis partie dans le public. Et le souci, c'est que cette école-là, elle m'a tellement dégoûtée de ce que j'ai fait là-bas que j'ai tout simplement arrêté.
J'ai quand même eu de la chance de pouvoir aller dans le public. J'ai fait un DUT après une licence pro. Mais ma situation financière, je pense, ne m'aurait jamais permis, si je n'avais pas été pris, d'aller dans le privé. Ça, je n'aurais pas pu me le permettre. Et donc, je pense que si je n'avais pas été accepté dans le public, j'aurais peut-être pas pu faire d'études.
Comme une bonne partie, je pense, des étudiants en France, j'avais été accepté à la Sorbonne à Paris. Et par ma situation financière, je n'ai pas pu partir à Paris parce que c'était des loyers beaucoup trop chers. Et même au niveau des CROUS, on est sur des loyers qui sont exorbitants, sans parler de tous les autres coûts, toutes les autres charges qu'un étudiant peut avoir. Donc je me suis rabattu à cause de ma situation financière familiale sur une université qui était beaucoup plus proche, donc celle de Bordeaux, et qui d'ailleurs n'ont rien à voir parce que l'autre c'était une licence d'italien avec mineur histoire, alors qu'à Bordeaux c'était uniquement une licence d'italien, LCCER.
Bon, ben je vois qu'on arrive tous à se débrouiller un peu comme on peut, mais arrivez-vous à couvrir toutes les dépenses confortablement ou ça reste quand même quelque chose de très compliqué?
Du coup, pour moi, oui. Clairement, la situation financière, elle a énormément influé le choix de mes études. Mon premier choix, c'était donc de faire une école privée à Dax, qui coûtait environ 4000 euros à l'année. Pour ma famille, c'était complètement infaisable, donc c'est passé à la trappe. Ma deuxième option, c'était de faire de la programmation à Bordeaux. Et j'avais été acceptée donc, à Gustave Eiffel. Donc, tout ce qui me manquait, c'était l'alternance. J'avais aussi le contrat. Mais quand je suis arrivée au moment de planifier les coûts, je me suis rendu compte que c'était pas faisable pour moi avec un salaire d'apprenti pour payer le loyer, pour payer les factures, la nourriture, les transports et tout ce qui allait à côté. Du coup, je me suis rabattue sur la dernière option, vraiment qui n'était pas mon choix à la base, mais qui était beaucoup plus proche et plus faisable pour moi, mais aussi pour mes parents. C'était un IUT à Mont-de-Marsan, donc à 30 minutes de chez moi, mais qui n'était pas du tout ce que je voulais faire. Et je pense que ça influera beaucoup sur ma vie, puisque faire quelque chose que je voulais pas faire à la base, ça m'a dégoûté des études et de l'informatique en général.
On essaye tous de s'en sortir comme on peut, mais est-ce que vous arrivez à couvrir toutes les dépenses confortablement ?
Comme je l'ai dit, j'ai été étudiant 6 ans. Ces deux dernières années, j'étais alternant, donc j'ai pu avoir un salaire. Je dirais que ce que j'ai remarqué, bien sûr, comme j'ai été augmenté au fur et à mesure des années, etc., d'alternance, plus notre salaire augmente et plus on a tendance à aussi élever notre niveau de dépenses, etc. Donc je dirais qu'actuellement, oui, je peux quand même, avec l'alternance, vivre pas confortablement, mais on va dire je m'en sors, je peux payer mon loyer, etc. En revanche, au début de mes études, c'était quand même beaucoup plus compliqué et donc ça m'a mené à faire pas mal de sacrifices.
Je rejoins totalement Damien sur ce point. Quand j'ai fait mon DUT, j'ai fait ma première année donc en initiale et la deuxième année en alternance. Quand j'étais en initiale, j'avais donc un appartement qui n'était pas très loin de l'IUT. J'avais pas le choix parce que sinon il n'y avait aucun bus qui desservait là où j'habitais. Ma bourse, elle était de 350 euros par mois et mon loyer aussi. Ce qui faisait que si j'avais pas eu la bourse au mérite qui était de 100 euros, j'aurais pas pu manger. J'avais la chance d'avoir l'électricité, l'eau et le wifi compris dans mon loyer. Mais à part ça, j'avais juste de quoi manger et j'avais pas de quoi couvrir les transports et j'avais pas de quoi couvrir mes loisirs non plus. Donc pour moi, en initiale, c'est pas possible. La deuxième année en alternance, là j'avais un salaire et j'avais un loyer donc, qui avait changé puisque j'étais à Biarritz, de 450 euros par mois, ce qui était la moitié de mon salaire. Mais comme ça me faisait quand même 500 euros de plus, je me serrais un petit peu à la ceinture et là c'était beaucoup plus faisable d'un coup.
Pour ma part, en partie grâce à ma situation familiale, du coup, j'ai pu avoir le droit à des bourses à échelon 5, donc qui m'ont permis d'avoir un revenu de 586 euros par mois, ce qui me permettait de déjà payer mon loyer, payer mes assurances, payer mes dépenses de nourriture le soir. Tout était budgétisé, en fait, concrètement, parce que simplement, si on ne budgétise pas, si on ne fait pas attention aux dépenses, si on ne suit pas la ligne, en fait, très rapidement, les étudiants se retrouvent tous généralement dans une situation de déficit en fait, financier.
Avez-vous déjà été amené à faire des sacrifices pour vos études ?
Moi, personnellement, oui. Par exemple, j'ai toujours cadré mon budget au maximum, parce que sinon, les fins de mois pouvaient être difficiles. Une des règles que je m'étais imposée, par exemple, c'était en partie, c'est aussi une activité sociale de, par exemple, prendre quelque chose au cafette, prendre quelque chose dans les machines, ça je m'étais interdit. Parce qu'en fait, sans se rendre compte, ça fait un euro par-ci, un euro par-ça. Et on se retrouve avec un budget de moins 20 euros pour du café qu'on peut très bien mettre chez soi. Les repas aussi. Ça a été plus compliqué de faire le choix de manger des pâtes tous les jours. Bon, pâtes intégrales quand même, mais sans pesto pendant des mois, un mois par-ci, un mois par-ça. C'est vraiment de faire des choix difficiles, parce qu'il y a aussi ce truc de est-ce que je suis au niveau de faire, par exemple, la file dans les aides alimentaires ? Non, je me retiens pas à ce niveau-là, dans le sens, j'essaie de faire au max 100. Et du coup, on est dans la situation où on se coupe nous-mêmes, on se décide nous-mêmes de quoi faire. Je pense aussi, par exemple, à des activités sociales, sortir dehors avec ses amis, manger aujourd'hui beaucoup au kebab ou au fast-food, des trucs que je m'empêchais de faire littéralement parce que du coup, le budget était serré. Il y a plein de choses comme ça qui font que les études, quand on n'a pas suffisamment du coup de finances et qu'on est dans la difficulté de vie, littéralement, on se retrouve dans une situation où on ne peut pas faire ces choses-là.
Moi, ça a été exactement la même chose, dans le sens où je ne prenais pas non plus quoi que ce soit dans les distributeurs. Je ne mangeais pas dehors, je n'allais pas avec mes amis. Et c'était assez compliqué d'ailleurs, parce que je les entendais énormément parler des sorties qu'ils avaient faites, d'aller manger quelque part, d'aller au magasin, au centre commercial. Moi, c'est des choses que je ne pouvais pas me permettre de faire. Et je pense que ça a quand même eu un gros impact sur ma vie sociale.
Je vous rejoins tous les deux. Ouais, je dirais que ce qui empathie en premier, c'est en tout cas pour moi, ça a été l'alimentation et aussi les sorties.
Donc, selon votre situation et vos sacrifices, est-ce que votre vie sociale, votre santé mentale ou physique même, a été touchée ou impactée sévèrement ?
Moi, je dirais que oui, notamment pour la santé mentale. Pendant mon alternance, ça a été quand même assez compliqué. Le rythme alternant est assez compliqué d'allier comme ça entreprise et école. En plus, j'étais dans deux villes différentes, donc j'avais aussi deux loyers à payer. Donc financièrement, c'était pas facile. Et en fait, c'est le fait de tout le temps devoir changer d'environnement, passer de l'environnement scolaire à l'environnement de travail et inversement, la réadaptation est des fois très compliquée. Quand tu pars deux semaines à l'école, tu reviens en entreprise, en deux semaines, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et en fait, t'es là et en fait, t'es en retard, en fait, clairement. Sauf que l'entreprise, elle tourne et il faut que tu raccroches les wagons. Et des fois, c'est compliqué, tu te sens un peu perdu.
Moi, ça a été relativement différent, dans le sens où mon problème principal par mes études, ça a surtout été l'isolement. En initial, c'était l'isolement social, dans le sens où tous mes amis, ils avaient de quoi sortir, ils pouvaient aller faire la fête, prendre un verre, manger kebab. Moi, je les écoutais parler. Et je me sentais à part parce que je ne pouvais pas participer à tout ça. Et je me disais qu'ils avaient leur groupe d'amis duquel je ne faisais pas partie, tout simplement. Et à partir du moment où je suis rentrée en alternance, ça a été encore pire. Parce que j'étais la seule alternante de mon groupe et le reste était resté en initial. Donc eux, pendant que je n'étais pas là, moi c'était un rythme de un mois en entreprise, un mois en études. En un mois, il se passait beaucoup de choses. Eux, ils se rapprochaient énormément. Et moi, je me retrouvais toute seule dans ma classe. Et même quand j'étais en entreprise, comme disait Damien, l'entreprise a continué à tourner, il y avait quand même des choses à rattraper et j'avais toujours l'impression d'être en retard par rapport aux autres.
Avez-vous rencontré des difficultés pour trouver un logement étudiant ou pas ?
Oui. Moi, mon problème, c'est que j'étais trop riche pour le Crous et pas assez pour avoir un vrai appartement qui soit décent. Donc en initial, j'ai pris une chambre chez l'habitant qui coûtait quand même 350 € par mois, ce qui était le montant total de mes bourses. Donc ça, c'était déjà galère. Et le souci que j'ai rencontré en deuxième, donc en alternance, c'est qu'en étant alternant, tu es reconnu comme étant capable de payer tes propres factures. Donc tu n'es pas du tout éligible au Crous, plutôt que de ne pas être prioritaire. Ensuite, le problème que j'ai rencontré, c'est que j'étais à Biarritz, et qu'à Biarritz, les contrats, les bails, c'est septembre à juin. Et en alternance, c'est septembre à septembre. Donc pendant 3 mois, je ne pouvais pas me loger puisque les loyers passaient de 400 € par mois à 400 € par semaine. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir une amie qui m'a très très légalement laissé rester chez elle au Crous. Mais ouais, grosse grosse galère. Et je ne parle même pas de la paperasse, mais ce sera trop long à raconter.
Pour le logement, j'ai vécu les deux. Pendant mes années de licence d'italien, j'ai eu la chance de pouvoir avoir des Crous. J'ai participé aux Hunger Games des Crous, parce que beaucoup d'étudiants finissent sans. Et du coup, j'ai eu la chance du coup, de pouvoir vivre dans un logement digne, bien chauffé, sans aucun souci, contrairement à d'autres qui avaient d'autres soucis, cafards, mauvaise isolation, etc. Et j'ai vécu la deuxième pour mon service civique, par exemple, aussi du coup parce que je suis étudiant en césure. J'ai essayé de chercher par le bon coin, j'ai essayé de chercher par agence. J'ai réussi à trouver quelque chose, mais qui du coup, la distance crée de nouveaux besoins. Par exemple, faites véhiculer et payer l'assurance du véhicule.
Que pensez-vous de l'état du Crous ? Est-ce qu'il devrait être amélioré selon vous ?
Alors globalement, l'état des Crous est en grande partie un bon quart déplorable. Mauvaise isolation, hygiène douteuse de la part des services du Crous, qui laissent à l'abandon, des pans entiers de logements, que ce soit à Bordeaux, Paris. Chaque année, on a des étudiants qui débarquent dans leur appart, ils sont à moitié démolis. Mais bon, de temps en temps, on voit des logements sortir, tout nouveau, tout beau, mais les Crous, c'est vrai qu'ils oublient une grande partie de leur parc. Et surtout, la plus grande difficulté des Crous aujourd'hui, parce que c'est même pas leur faute dans la globalité, c'est la faute d'un manque de financement, c'est le manque de logements. Aujourd'hui, on est autour des, il me semble, 30 000 logements pour plus de 300 000 étudiants en licence, sans compter les masters. C'est 300 000 étudiants en master. Celui de licence, j'ai pas la donnée, excusez-moi. Et il manque un vrai manque de logements, en fait. Il manque des logements. Ceux qui sont insalubres, ben, il manque la rénovation totalement de ces logements-là. Et en plus de ça, c'est pour en fait répondre à une demande croissante du logement, qui est une nécessité pour l'ensemble des étudiants. Parce que si tout le monde vivait au Crous, ben, c'est des coûts différents. Quand on voit qu'un Crous, par exemple, sur Bordeaux, le plus cher, c'est dans les 380 euros seul, c'est le plus cher. Et dans le parc privé, il y en a qui en profitent et du coup mettent les logements, par exemple, à 500, 600, pour des logements des fois aussi moins chers et des services aussi qui ne sont pas inclus, comme Internet pour les Crous, l'électricité, l'eau et l'entretien.
Personnellement, mon séjour au Crous, il a été relativement court. J'ai eu la chance d'avoir un logement qui était quand même en bon état et qui était presque sympa. Le seul problème, c'était la taille. Parce que bon, 9 mètres carrés, je dois avouer que même en 3-4 mois, j'avais l'impression de perdre la tête et de tourner en rond, un peu comme un poisson rouge dans son bocal qui fait tout le temps le tour. Donc ouais, c'était frustrant.
Pensez-vous que les aides financières pour les étudiants sont suffisantes ?
Personnellement, non. Si on prend en considération uniquement les aides financières données par l'État ou même par d'autres organismes à l'étudiant pour vivre, elles sont totalement insuffisantes. Déjà, si on part du principe qu'une bonne partie des étudiants sont exclus du système parce que rattachés aux revenus des parents, et on rappelle, les parents des fois n'ont même pas suffisamment de moyens pour en donner à ces les enfants qui étudient. En prenant en considération ça, en prenant en considération aussi que les appels, ben, pas tout le monde y a droit, ou du moins ne sont pas suffisants du coup, pour couvrir le prix du loyer, on se retrouve dans une situation où beaucoup d'étudiants vivent mal, pas correctement, mais je rappelle, ils s'excluent socialement, ils se mettent des limites partout, et font que du coup, ont une mauvaise vie active. C'est pour ça que moi personnellement, mon avis, il faudrait mettre en place un espèce de revenu universel pour les étudiants, pour justement pallier au fait que les étudiants vivent actuellement mal, la plupart, que beaucoup d'étudiants abandonnent leurs études parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent, abandonnent leurs études parce qu'ils n'ont pas de temps, parce qu'ils travaillent à côté. Il y a plein de facteurs qui font que, du coup, ils vivent tout simplement dans une grande difficulté. Et justement, je rappelle, je me rattache surtout au rapport de l'Union étudiante 2025, qui disait que le coût, par exemple, rien que pour 1 102 euros pour l'ensemble des étudiants, c'est-à-dire licence, master et aussi BTS et tout, c'est uniquement plus ou moins 13 milliards d'euros. Alors qu'est-ce que c'est 13 milliards d'euros sur 1 670 euros de dépenses d'État ? J'ai envie de dire une goutte d'eau, un peu comme les retraites, j'ai envie de dire. Et aussi, il y a d'autres choses à faire et à mettre en place. Par exemple, Europe 1 euro qui est exclusivement dédié aux étudiants boursiers. Mais le nombre incalculable d'étudiants non boursiers qui n'y ont pas droit, et qu'ils aimeraient bien y avoir, parce que du coup, c'est un coût, payer 3,30€ au lieu d'1€, par exemple. Et ça aussi, la Cour des comptes disait que ça coûtait autour des 300 millions d'euros pour donner, je rappelle, à l'ensemble des étudiants. Du coup, si l'État mettait en place ce genre de système, déjà financé pour que le repas soit 1€ pour toutes et tous, si financé pour un revenu aussi universel étudiant, un salaire étudiant littéralement, aussi, il faut prendre en compte que tous ces coûts, derrière, pourraient avoir des bénéfices. Parce que bon, les étudiants, ils vivent en France, ils payent le loyer en France, la plupart payent aussi le loyer au Crous, donc s'il y aurait plus de Crous, ça ferait plus d'argent dans les caisses du Crous. Il y a plein de choses qui font qu'en fait, cet argent retournera dans les poches de l'État français.
Quels sont vos bons plans étudiants afin d'économiser le plus possible, histoire de donner quelques aides aux jeunes qui puissent nous écouter ?
Pour moi, premièrement, il y a le Crous, donc les repas, qui sont à 1€ pour les étudiants boursiers et à 3€ et quelques pour les étudiants. Donc ça, déjà, c'est important. Ensuite, deuxième bon plan, ce serait en fait la colocation, tout simplement. La colocation, ça permet d'être dans un logement quand même assez plus spacieux, d'avoir généralement les charges, elles sont comprises. Donc, on paye un loyer dedans, on paye l'électricité, l'eau, le wifi, etc. En comparaison à une location seule, des fois la location, tu te retrouves seul avec moins d'espace et en plus de ça, tu payes beaucoup plus cher.
Pour moi, ça va être plutôt des conseils au niveau de l'alimentation et c'est pas forcément que pour les étudiants. Mais mon premier conseil, ce serait vraiment de contacter des épiceries solidaires qui font d'énormes prix sur la nourriture. Par exemple, moi, j'avais à peu près accès à 15 ou 20 euros par mois. Et avec 5 euros par semaine, je pouvais avoir une poche de courses entière qui me durait du coup toute la semaine. Et à côté de ça, il y a aussi des paniers zéro gaspi. Donc ça, c'est, il me semble, plus des supermarchés et des restaurants qui vont redistribuer les invendus à prix réduit en fin de journée. Et ça aide du coup à acheter la nourriture à moindre coût.
Pour ma part, ça sera surtout des conseils administratifs pour recevoir un tout petit peu plus ou voire même dépenser moins par rapport aux courses, par exemple. Je rappelle à l'ensemble des étudiants en licence, enfin peu importe, les étudiants qui peuvent faire la demande déjà de deux choses. La première, c'est le repas à 1 euro. S'ils sont en situation de difficulté ou même qu'ils n'ont pas été acceptés pour les bourses, ils peuvent quand même demander à leur rectorat, donc par exemple en Nouvelle-Aquitaine, aux courses de Bordeaux, via un lien que vous trouverez très facilement sur Google, pour faire la demande du repas à 1 euro. Si vous avez un CROUS à côté. Après, il y a d'autres demandes qui existent, par exemple les aides exceptionnelles du CROUS qui vous permettent de débloquer une enveloppe pour vous, alors soit instantanée, soit sur plusieurs mois, en fonction de votre situation. Après, il y a d'autres aides, toujours administratives. N'hésitez pas à faire votre carte solidaire, par exemple en Nouvelle-Aquitaine, pour les transports. N'hésitez pas à faire tout ce que vous trouvez, même pour les CROUS, qui vous permettrait d'avoir un tout petit peu plus.
Comment manger équilibré tout en dépensant peu, très peu ?
Mais déjà, la première chose à faire pour moi, c'est vraiment de regarder aux alentours. Il y a beaucoup d'assos, comme du coup des épiceries solidaires, les Restos du Cœur, ou même des assos qu'on appelle des chantiers d'insertion qui font beaucoup de maraîchage et d'épiceries. Donc vous pouvez manger à prix réduit, ça coûtera beaucoup moins cher qu'en supermarché. Et vous pouvez trouver plein de produits, que ce soit des œufs, de la viande, des légumes, des fruits, des céréales, vraiment pour pas cher. Je vous conseille aussi d'éviter énormément d'acheter des plats qui sont déjà préparés parce que même si ça paraît pas forcément super cher, vous payez quand même la main d'œuvre et ça reviendra beaucoup moins cher de cuisiner vous-même avec des produits trouvés dans des associations locales.
Moi, je dirais que c'est quand même une organisation. Ce que je conseille, c'est vraiment de faire un planning et avec les repas que vous allez manger dans la semaine. Comme ça, quand vous allez faire vos courses, vous savez déjà ce que vous allez manger, vous avez une liste et donc vous savez ce que vous achetez. Et vous n'êtes pas là aux courses en arrivant, je ne sais pas quoi acheter et j'achète n'importe quoi au final. Et avec ça, je ne sais même pas quoi en faire parce que ça ne matche pas. Je conseillerais aussi des sites comme Marmiton où, qui proposent des recettes, notamment, moi je conseille beaucoup les quiches. On peut vraiment, avec des quiches, faire des repas qui ne coûtent vraiment pas cher. Et donc, renseignez-vous et allez sur ce genre de site qui propose des recettes pas chères.
Je rejoins totalement ce qui a déjà été dit précédemment et en plus vraiment la clé pour manger sainement c'est de faire soi-même, en espérant bien sûr qu'on ait le temps, de faire ses achats par exemple aussi au marché qui peut légèrement, ça dépend, coûter un peu moins cher que les supermarchés ou même les supérettes, d'essayer de aussi faire des achats groupés avec des potes, par exemple un sac de patates à 7 euros 10 kilos, bon l'agriculteur ne sera pas payé beaucoup mais au moins... partager, ça coûtera beaucoup moins cher que s'acheter un sachet à 3 euros pour 2 kilos. Il y a plein de petites choses comme ça dans le sens où achat groupé, achat local, par exemple le marché, se fie aussi du coup à notre environnement avec les associations qui peuvent, comme le disait précédemment ma collègue, proposer des produits et même très, très peu chers dans sa globalité.
Avez-vous des astuces à partager pour bien gérer votre budget ?
Oui, j'en ai deux. Pour moi, la première, c'est d'utiliser une application. Donc, ça peut être Bankin, ça peut être plein d'applis qui vont vous permettre de diviser votre budget, de dire ce mois-ci, je paye tant de loyer et avec ce qui reste, de diviser les coûts et de savoir combien vous pouvez allouer à chaque dépense. Ma deuxième astuce, ce serait vraiment d'éviter d'utiliser la carte bancaire parce que quand on utilise ça, on a tendance à beaucoup moins se rendre compte des dépenses qu'on a eues. Donc ça revient un petit peu à ce que je disais avec l'application. Une fois que vous avez divisé vos coûts et que vous savez combien de sous vous pouvez dépenser sur chaque catégorie, vous pouvez retirer cet argent-là et le mettre par exemple dans une pochette et essayer de payer en liquide. Comme ça, vous voyez exactement combien il vous reste. Alors ça peut être un peu stressant pour certains de voir l'argent descendre physiquement, mais ça peut aider du coup à empêcher les dépenses impulsives et vraiment bien gérer son argent et ne pas dépasser.
Je rejoins totalement ce qui a été dit, dans le sens où, bien sûr, la chose la plus primordiale, c'est déjà d'avoir une application, ou même un tableur Excel, peu importe ce que c'est au moins visualiser numériquement ce qui monte, ce qui descend, les rentrées, les sorties, et du coup de s'imposer, quand on vit dans une situation difficile, il faut qu'on s'impose, en fait, de faire des choix. Donc, les sorties, ça sera 10 euros par je sais pas combien de temps, le loyer, c'est le loyer, etc. etc. Et vraiment budgétiser l'ensemble des données, les remplir sur l'application, sur un tableau, peu importe. Et du coup, de concrètement voir ce qui se dépense ou non. Vous pouvez aussi vous aider de vos applications Blocker classiques où il y a des relevés numériques avec des graphiques qui, des fois, peuvent être beaux, d'autres plus moches. Et qui, dans le sens où vous voyez. Donc, je rejoins aussi le côté comptant où, en fait, on voit l'argent partir physiquement. Dans le sens où, malheureusement, avec la carte, les dépenses partent vite et on ne s'en rend pas compte parce que justement, on n'est pas là tous les jours à regarder le compte.
Après, voilà, c'est dans un certain idéal et je peux comprendre qu'on ait parfois la flemme de tenir un tableau Excel. Ou voilà, mais franchement, il y a, comme tu disais Chloé, des applications, vraiment des choses très faciles qu'on peut utiliser, qui existent déjà. Il y a des tableurs Excel déjà tout faits, etc. Et voilà, c'est vraiment, je pense, important de segmenter, catégoriser voilà, nos différents types de dépenses, comme l'ont dit Pablo et Chloé, et pour vraiment pouvoir gérer son budget au mieux.